Bonjour à toutes et à tous. Je suis réjoui, honoré de me tenir devant vous. Merci pour la confiance, pour l'invitation. C'est un privilège, une responsabilité de la part du Seigneur. Je vais mettre de côté ce qui était prévu. Gérard, merci. Voilà, on peut oublier. Et on va se laisser dans l'insécurité, conduire par le Saint-Esprit. Je vais rappeler les musiciens. Merci, merci pour votre jeu musical, merci pour votre cœur, pour votre état d'esprit. Merci pour votre soutien. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les minutes qui suivent, mais j'aurai besoin de vous, de votre cœur, de votre esprit de louange. Merci, oui. Pardon, je ne vous avais pas prévenu, mais... Merci pour les chants qui ont été choisis ce matin. Merci Seigneur d'avoir conduit, dirigé, comme il le souhaitait. Et comme il désire pour la suite de ce temps-là. Moi, je ne suis rien. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus. Je ne me sens pas très bien parce que je suis en hauteur et je n'ai pas l'habitude. D'habitude, je suis en bas. Et je bouge. Est-ce que ça vous gêne si je descends et que je prends le micro? Je suis désolé pour l'enregistrement. Alors, quel micro est-ce que je peux prendre? Merci. Il y a ce petit cœur qui dit « Seigneur, Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Dieu, Dieu le Père, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. » Nous avons, Seigneur, pris le temps de t'apporter notre louange, notre adoration, notre reconnaissance, de t'élever, de t'exalter. Et nous te recommandons la suite, les minutes qui suivent. Nous t'invitons au Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, toi qui convaincs. Toi qui exerces ce ministère de conviction, nous t'invitons au Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos pensées, nous t'invitons dans notre esprit, nous t'invitons à passer dans les rangs, à révéler Jésus, le Jésus glorieux, ressuscité, certes après la croix, après l'humiliation, mais le Jésus tout-puissant, glorieux. Père, nous t'invitons, viens faire ton œuvre également. Alléluia. 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 Vous êtes venus avec quelle faim, avec quelle soif, avec quelle envie, avec quelle prière. Vous êtes venus avec quoi? Je vous partage juste quelques pensées sur le verset phare de la parole de Dieu. Le verset qui est un peu la bande annonce de la parole de Dieu, de la Bible dans son ensemble. Jean 3,16. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous savez de Jésus, ce que vous savez de Dieu. D'ailleurs, ce mot-là, qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Est-ce que vous le voyez comme certes le Dieu créateur de l'univers, mais qui aujourd'hui n'a plus rien à faire de votre vie, qui est lointain, inaccessible, inintéressé ? Est-ce que Dieu, vous le voyez comme le Père Fouettard, à cause d'expériences de la vie difficile, à cause de choses qui ont été éprouvantes à vivre, très difficiles, et vous vous dites, mais où est-ce que tu étais ? Où est-ce que tu étais dans ces moments-là ? Je ne connais pas votre histoire, ce que vous avez traversé, mais peut-être que vous voyez Dieu comme ça. Ce matin, j'aimerais parler de Dieu le Père, rempli de ce cœur d'amour pour chacune et chacun d'entre nous. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a chacun et chacune tant aimés, qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque place cette foi, cette espérance en lui, en ce Jésus crucifié, ne périsse point, ne reste point éloigné des projets, des plans de Dieu qui sont les meilleurs pour nous, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie véritable. Ce verset phare, Jésus l'a exprimé à qui ? Vous le savez ? C'est un des chefs pharisiens qui, en catimini, discrètement, vient voir Jésus, Nicodème, parce qu'il est interloqué par ce bonhomme, parce qu'il vaut mieux connaître le phénomène. Alors discrètement, il vient voir Jésus. Et Jésus partage cela à Nicodème. Ce n'est pas un verset qui a été proclamé à de grandes foules, en grand nombre, mais à Nicodème. Et puis à Nicodème, il vient dire, Nicodème, tu sais beaucoup de choses. Tu sais beaucoup de choses dans ta tête, mais il faut que ça descende dans ton cœur. Il faut que tu naisses de nouveau, une nouvelle naissance dans l'Esprit de Dieu. Hein ? L'Esprit de Dieu veut venir communiquer à ton esprit qu'il est la vérité, que c'est le seul chemin. Alors Nicodème va être complètement dans l'incompréhension, décalé, parce que ça ne correspond pas avec sa pensée, il est étranger à ça. Et nous tous, à un moment donné, ou pour beaucoup, on a été dans l'incompréhension. Je partage quelques mots de témoignage personnel. On peut dire que je suis né entre deux pages de Bible parce que j'ai grandi dans un contexte où on m'a enseigné les histoires de la Bible, le déluge, Moïse et Abraham et Jacob et Isaac, et etc. et Jésus. Et j'étais sensible à ces choses-là parce que je percevais qu'il y avait quelque chose de vrai. J'étais surtout sensible, et je vous encourage à cela, j'étais surtout sensible aux prières. Quand j'étais jeune et adolescent, aux prières que j'entendais dans l'assemblée. Je me souviens de certaines prières spécifiques de personnes âgées, de couples ou de personnes avec une vie très simple, mais qui exprimaient ce que Jésus représentait dans leur vie, ce qu'il avait fait dans la semaine pour ces personnes-là. Une personne un jour, malvoyante, a dit « Seigneur, je te remercie parce que cette semaine, mon cassettophone a fonctionné à nouveau. » Nous, on était jeunes adolescents, et je me rappelle, j'ai éclaté de rire dans mon cœur parce que je me suis moqué. Mais c'était une personne qui, n'ayant pas la possibilité de lire la Bible, écoutait. Elle écoutait, et l'écoute de la parole de Dieu, c'était tout pour elle. Alors elle exprimait simplement cela. Et moi, je me suis moqué. J'entendais des personnes âgées exprimer ce que représentait Jésus pour elles. Et je me dis, mais forcément, il y a quelque chose de vrai. Et puis j'ai continué, adolescent, et je n'étais pas un grand brigand, mais je voyais que je n'étais pas vrai. Entre ce que je vivais, ou en tout cas ce que j'entendais dans les cultes le dimanche, et puis ce que je vivais dans la semaine, il y avait un décalage. Et c'est pas très confortable de marcher en décalé. De marcher un pied sur le trottoir et un pied dans le caniveau, et de faire paraître bonne figure le dimanche, alors que dans la semaine, on a d'autres pensées, d'autres préoccupations, un autre langage. J'étais tiraillé. Et puis un jour, merci Seigneur, alors qu'à l'Armée du Salut, on avait l'occasion de jouer dans une comédie musicale, Spirit ou le feu de l'esprit. On terminait cette comédie musicale qu'on avait représentée dans différents postes du sud de la France avec ce chant « Que dit l'Esprit de Dieu pour toi ?» Qu'est-ce qu'il te dit maintenant alors qu'on a annoncé ce que Jésus a fait dans ta vie? L'amour qu'il a manifesté à la croix jusqu'au boutiste, hein, l'amour manifeste de Dieu pour toi personnellement. Que te dit l'Esprit là, dans ton cœur? Qu'est-ce que ça fait? Donc on invitait les participants à cela, à prendre position. Et moi j'étais dans les choristes. Et à un moment donné je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Philippe? Tu lances une invitation que toi-même tu n'as pas vraiment accepté jusqu'à présent. Et là j'ai dit, Seigneur, je viens. Je suis tombé à genoux. C'est bien, j'étais caché derrière les autres. Et là, c'est comme si tout ce que je savais d'intellectuel, de ma connaissance, ça tombait dans mon cœur. Et je réalisais, j'étais pas un grand brigand, mais j'ai réalisé ma vie piètre, un peu minable, sans Jésus. De l'avoir mis de côté jusqu'à présent, de l'avoir écarté, de penser que j'allais mener ma propre vie comme je l'entendais, par mes propres ressources, mes propres moyens. Et depuis, la vie, elle a changé. Depuis, le soleil est là. Depuis, la lumière, l'envie de lire la Bible, de plonger les regards dans la parole de Dieu. Ma maman, surtout, nous poussait à aller au culte. Et puis, peut-être que vous, certains jeunes, ça vous barbe. Ça vous pèse. Moi, je faisais du sport, je m'entraînais pas mal. Et puis, le dimanche, j'avais envie des compétitions. Et puis ça me pesait. Mais fidèlement, ma maman m'encourageait. Et je dis merci Seigneur pour cela. Mais par la suite, j'ai eu envie de venir. J'avais soif de venir, de lire la Bible, de prier, d'être là présent et de participer au culte pour Jésus. Dieu a tant aimé toi-même, toi, chacune et chacun, afin que tu ne périsses pas. Alors ça veut dire, mais bon, de toute façon, c'est juste pour la vie éternelle, j'ai le temps. Mais en fait, c'est être étranger, être mort à la volonté de Dieu pour toi. Être mort à ses projets, à ses intentions, à ce qu'il nourrit comme envie pour toi, au rêve qu'il a pour toi. Tu en es mort pour l'instant si tu ne l'as pas accepté. Mort, une vie insipide qui n'a pas de sens, où tu penses qu'elle a un sens, tu cherches et tu penses t'accomplir dans différentes choses, ton travail, la reconnaissance sociale, les loisirs, les divertissements, les biens matériels ou autres. Mais si tu n'as pas Jésus, il manquera à chaque fois quelque chose dans ton cœur, parce que le vide, il a la place de Jésus. Donc ce n'est pas seulement pour l'éternité, pour les choses lointaines, mais c'est dès maintenant la vie véritable. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger, je suis venu pour que les brebis, elles aient la vie véritable, la vie en abondance en Jésus-Christ. Nicodème, il connaissait bien la loi. Il savait que pour être, à cette époque-là, pour être réconcilié avec Dieu, pour être reconnu de Dieu, pour être accepté dans la présence de Dieu, il fallait un sacrifice. Un sacrifice qui avait un coût, il fallait acheter l'animal, il fallait tuer l'animal, il fallait que le sang coule. Nicodème savait cela. Avec la venue de Jésus, il n'y a plus de sacrifice, parce qu'il a été le sacrifice parfait. Il est encore le sacrifice parfait. Son sang a coulé à la croix. Il a accepté les coups de fouet, l'humiliation, les critiques, les murmures. Alors qu'il était sur la croix, on lui a dit, « Descends, toi qui te targues de savoir tout faire. » Il a accepté tout cela. Pour moi, pour toi, pour chacune et chacun d'entre nous. De porter cela. Et Dieu le Père. Dieu a tant aimé. On peut penser, moi c'est ce que j'ai pensé à un moment donné, que Dieu, il est tellement grand, il est tellement infini que il peut donner ce qu'il veut, ça ne lui coûte pas grand-chose quelque part. Mais puisque Dieu nous a fait à son image, si vous deviez donner votre fils pour quelqu'un, vous le feriez. Si je devais donner Esaïe ou Gad pour quelqu'un, mais Dieu le Père, il l'a fait. Ça lui a arraché sans doute les tripes. Les tripes, c'est charnel, mais il a accepté cela. Tellement son amour est grand envers nous. Dans le DPS, il y a un chant qui dit « Jésus est mort pour moi ». On va le prendre. Merci les musiciens. Je veux vous inviter à baisser la tête. Et à considérer, à reconsidérer ce message d'amour. Et peut-être, puisque je ne vous connais pas, peut-être que certains présents ici, vous pouvez commencer à le jouer. Peut-être que certains n'ont pas encore fait ce pas de dire, ben Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je crois que ce sacrifice que tu as opéré à la croix, il est aussi pour moi. Et je le saisis. Je ne sais pas trop où ça va m'amener, mais je le saisis, je veux le vivre. Je veux vivre cette vie véritable. Je reconnais que jusqu'à présent, j'ai mené ma vie comme je l'entendais, que j'étais écarté, rejeté, en pensant avec orgueil, avec suffisance que je pouvais gérer ma vie. Mais Seigneur, je reconnais avoir raté la cible. Et c'est ça le péché simplement. L'origine du mot, c'est passer à côté, rater le cœur, la cible, la volonté de Dieu qui est tellement bonne pour nous. Ne passe pas à côté encore aujourd'hui. On va chanter ce chant, mais Saint-Esprit, tu passes, tu agis, tu œuvres là. Et si vous vous sentez particulièrement touché, interpellé, alors simplement levez votre main. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. C'est par amour qu'il est monté en croix. Jésus est mort pour moi. Encore une fois. Jésus est mort pour moi. Par amour qu'il est monté en croix, Jésus est mort pour moi. C'est par amour. C'est par amour qu'il est monté en croix, Jésus est mort. Et puis j'ai une autre pensée à partager. Si vous n'avez pas levé la main mais que vous vous sentez interpellé, alors ben, venez voir simplement à la fin du culte. Il y a dans la vie de David, avant qu'il n'accède à la royauté, il y a des épisodes très difficiles qu'il a vécu, qu'il a traversé. il reçoit de la part du prophète Samuel l'onction pour devenir roi. Il le sait. C'est sa destinée, ce que le Seigneur a prévu pour lui. L'Éternel souhaite que David exerce une royauté à sa gloire, à son honneur, pour que Israël soit un peuple témoin au milieu des autres nations, un peuple différent. David sait cela, il entend cela. Voilà, ce sont les projets, les intentions que l'Éternel a pour lui. Et ce jeune homme, de belle figure, encore presque un enfant, il connaît l'Éternel. Parce que quelque temps après, lorsque Saül, le roi, lorsque Saül est tiraillé par un mauvais esprit, parce que l'Esprit de Dieu l'a quitté, alors on cherche un musicien. On cherche quelqu'un qui soit capable, en jouant, d'amener de la paix, du calme, un esprit de repos. Et quelqu'un, là, parmi les conseillers de Saül, quelqu'un va dire « Ah, mais j'ai vu quelqu'un, un fils d'Isaïe. » C'est un jeune homme qui sait jouer. Mais il ne s'arrête pas là. Il sait jouer. C'est un guerrier. C'est un homme de belle figure qui sait parler et l'Éternel est avec lui. Alléluia. Je ne sais pas comment il connaissait David, où est-ce qu'il l'avait vu, mais il y avait ce témoignage, l'Éternel est avec lui. Après, il y a Goliath. David va en être vainqueur à la gloire de Dieu. Mais ensuite, vous savez qu'il y a des choses très difficiles. Saül va être jaloux, irrité, en colère, tentative de meurtre. Donc David doit fuir. Fuir dans le désert. Ce que je dis vite là, en 2-3 minutes, essayons de l'imaginer. Vivre dans le désert, dans les cavernes, dans les grottes, dans l'inconfort, dans la chaleur, dans le froid, dans la fuite en permanence, et le temps qui passe, et le temps qui passe et qui s'écoule, et d'autres épreuves qui vont venir encore, d'autres subterfuges de l'ennemi pour essayer d'écarter David de son appel, de ce que le Seigneur a prévu pour lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des épreuves, des ruses, pour que David, à un moment donné, se fasse vengeance, pour que David exerce la justice contre Nabal ou d'autres choses comme ça. Et le temps s'écoule, et le temps s'étire. Et il y a tous les pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi autant de difficultés? Pourquoi autant d'épreuves? Pourquoi autant de souffrances? Pourquoi, alors que tu m'as fait connaître le destin, le projet que tu as pour moi, pourquoi est-ce que c'est aussi long? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile, aussi éprouvant? Peut-être que ce matin, vous êtes dans les pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Pourquoi est-ce que je suis autant éprouvé? Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Le désert, la chaleur, une parole, une promesse que vous avez reçue mais qui ne s'accomplit pas encore. Peut-être que vous êtes là-dedans, dans le tiraillement. L'attente longue. Vous priez, des sujets de prière que vous portez, et puis on ne voit rien. Ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Que ce soit pour la maladie d'un proche, pour la conversion ou autre, rien ne bouge, rien n'avance. Peut-être une situation matérielle difficile, l'absence de travail, une période de chômage. Et puis pourquoi? L'attente longue, l'étirement qui vous fait poser ces questions. Pourquoi? Et peut-être penser à des solutions de facilité, à des petits arrangements, à des choses un peu à côté. Bien des situations, bien des circonstances qui font que ça peut être difficile. ça va être difficile pour David. Tellement difficile qu'à un moment donné, il va se dire la chose suivante. Peut-être que ça vous parlera. 1 Samuel 27, David dit en lui-même, « C'est sûr, je périrai un jour. Je périrai un jour par la main de Saül. Alors il n'y a rien de mieux pour moi. Je vois les circonstances, je vois le temps qui passe, je vois la situation et j'analyse que finalement, ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est d'aller me réfugier au pays des Philistins. C'est d'aller chercher la paix, la tranquillité. Cette épreuve, je n'en peux plus. Ce temps qui passe, c'est trop étirant. Je vais aller au pays des Philistins chercher du repos. Afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Et c'est ainsi que j'échapperai à sa main. » Le temps est passé, l'usure du temps, et David, qui connaissait l'appel, le projet de Dieu pour lui, il regarde les circonstances et puis il laisse tranquillement les mensonges de l'ennemi prendre de la place et lui faire dire, finalement, je vois que ce qu'il y a de meilleur pour moi, c'est d'aller chercher du repos, du secours chez les Philistins. Finalement, c'est là le projet qui est le meilleur pour moi. Peut-être vous êtes un peu dans ce cas-là. Moi, je le suis. Dans les difficultés du ministère, des fois on se dit, dans l'opposition, dans l'absence de fruits, dans le temps qui passe, on va bouger. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Aller chercher du secours, aller chercher quelque chose de moins éprouvant, de moins étirant, quelque chose de plus facile, mais quelque chose qui nous fait passer à côté. Le risque, passer à côté du projet, de l'intention, de la destinée, de la volonté de Dieu. Ne ratons pas cela. David, c'est ce qu'il va faire. Il va aller chercher du secours à Tsiklag, cette ville où il va rester 16 mois. Et là, ouf! Ce qu'il voulait, il a eu. Du repos, de la tranquillité, de pouvoir être un peu en paix, loin de Saül, qui en veut toujours à sa vie. Mais David, ça fait un moment qu'il ne consulte plus l'Éternel. Auparavant, c'était un homme, on le voyait chercher la face de l'Éternel, lui poser la question, lui demander conseil. Pour Tsiklag, rien, on ne voit rien, aucune prière. La relation, elle s'est distendue. Et il en vient à penser, voilà ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà ce que moi, je pense. Et à Tsiklag, la spirale, elle descend. Elle descend parce qu'il va commencer à vivre dans le mensonge. Vous savez ce qu'il va faire à Tsiklag, alors qu'il est installé. Il a besoin de vivre avec les 600 hommes et les familles qu'il représente. Alors il va aller faire des excursions dans le coin des Amalécites. Mais quand il en parle au roi Achish, au roi des Philistins, il lui dit en fait qu'il est allé en Juda, chez les siens, commettre ces choses-là. Donc Achish, le roi philistin, il s'en réjouit. Il se dit, mais il se rend odieux de son peuple même. David vit dans le mensonge. Il vit dans la fausseté. Il vit loin des projets de l'Éternel parce que son cœur est devenu insensible. Pire, lorsqu'il fait ces excursions-là, il tue hommes, femmes, enfants. La parole de Dieu nous dit qu'il ne laisse aucun témoin. Aucun témoin pour que personne n'aille dire ce qu'il fait. Et on se dit, mais David, mais tu es tombé jusqu'où? Qu'est-ce que tu fais? À cause de l'éloignement de son cœur, à cause du fait d'avoir eu ce tiraillement dans le temps et d'avoir pensé les mensonges de l'ennemi, que c'était là qu'il pouvait trouver du secours. Pire encore, Achish, le roi philistin, va avec d'autres rois de la localité, ils vont combattre le peuple d'Israël. Et David veut se joindre au roi philistin, Achish, pour combattre Israël. On se dit, mais comment va-t-il pouvoir entrer dans sa destinée de roi s'il se rend odieux même au peuple d'Israël ? Alors dans sa bonté, Dieu va le préserver, Dieu va le garder. Les autres rois philistins vont dire, non, non, on ne veut pas de lui, tu le renvoies. Heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qu'il se serait passé ? Alors on pense que les choses sont arrangées. David retourne dans la ville, à Tsiklag. Et là, il la trouve brûlée, détruite, avec femme, enfant et toutes les possessions disparues. Vous avez quelques images là, des fois à la télévision, d'une ville complètement rasée à cause de la guerre. Ben, imaginez ça, dans Tsiklag. David arrive et c'est le spectacle qu'il a avec ses compagnons. Et ce n'est pas les meilleurs des conseillers, ses compagnons. La Bible nous dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Ça vous est arrivé ? En tout cas, c'est ce que vit David et ses hommes. Parce qu'ils ne savent pas que hommes, enfants sont encore en vie. Merci Seigneur. Mais ils ne le savent pas. Alors, après avoir versé tant de larmes, on se reprend. Et quand les hommes se reprennent, ils disent, David, c'est de ta faute. Pourquoi est-ce que tu as voulu combattre Israël aux côtés du roi Achish ? Pourquoi d'ailleurs tu n'as pas saisi les deux occasions de tuer Saül alors que tu en avais la possibilité ? Pourquoi tu n'as pas saisi ces opportunités d'accélérer le temps et de rentrer dans ton appel ? Tu vois un peu ce que l'on vit à cause de toi ? Vous imaginez les critiques, les murmures ? Et la parole de Dieu nous dit, David fut dans une grande détresse parce que ses proches menaçaient de le lapider. Donc David, il est seul. Et c'est en étant seul, au fond du trou, qu'enfin, il va revenir à Dieu. Il va passer par l'humiliation, par l'aveu, la reconnaissance de ses erreurs, des mensonges de l'ennemi qu'il a laissé s'engouffrer dans ses pensées, de son orgueil à penser qu'il savait ce qu'il fallait faire. Il va se repentir. Il va se repentir. Ouais, David est passé par des choses pas faciles. Et dans ce temps-là de repentance, la communion avec Dieu est rétablie. Il le remplit d'espérance, de force. Et David va dire, ben, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'y vais ou j'y vais pas ? Et l'Éternel lui dit, vas-y, et tu récupéreras tout. Tu vas tout récupérer. Et c'est ce qui va se passer avec ces hommes. Il va les motiver, ils vont avoir une grande victoire. Ce matin, peut-être tu es tenté d'aller chercher du secours à Tsiklag. Peut-être tu es tenté d'abandonner, tenté de trouver un petit arrangement à côté de la volonté de Dieu parce que tu n'en peux plus, parce que tu es fatigué, parce que tu n'as plus de ressources, tu n'arrives plus à lire la Bible, tu n'arrives plus à prier, à venir au culte avec plaisir et tu laisses les mensonges de l'ennemi te dire « mais c'est ça qui aurait de mieux pour toi » ou l'influence de tes amis « mais viens, c'est ça qui a de mieux pour toi ». Moi je te propose ça, alors que l'Éternel, il a une destinée, un plan, il a des projets particuliers pour chacune et chacun d'entre nous. Mais sachez que l'ennemi ne le veut pas. Et l'ennemi va tout faire pour nous écarter de sa volonté, de ses intentions pour nous, quelle qu'elle soit. Peut-être tu es dans ce cas-là, tenté, comme le peuple d'Israël a été tenté d'aller chercher du secours en Israël. Et peut-être que tu te sens ce matin comme David et ses hommes qui rentrent à Tsiklag et qui voient que la ville est détruite et qui se disent « mais quel gâchis, quelle perte !» Peut-être que tu te dis « j'ai fait des choix, j'ai perdu la paix, j'ai perdu des années ». J'ai pensé que tel cursus d'études, tel choix, telle décision, et puis finalement, échec sur échec, gâchis, absence de paix, absence de repos, de tranquillité, tourment. J'ai perdu ma virginité. J'ai perdu l'appel que le Seigneur avait placé sur mon cœur. J'ai failli en cela. Et tu te dis, ben, j'en suis là. Peut-être. Mais le Seigneur, il te dit, tu peux tout récupérer. Si tu reviens à lui, si tu passes par la reconnaissance de ses mauvaises décisions, de ses mauvais choix, de ses mauvaises influences, alors comme David, tu peux tout recouvrer par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut simplement afficher, Gérard, les deux derniers versets de Jérémie et de Ésaïe? On restera sur ces versets-là en clôturant. Merci Gérard. Je lis. Vous connaissez ces passages. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est en faisant, ma version dit, c'est en faisant demi-tour, en faisant un chemin de repentance, en reconnaissant l'erreur, les mauvais choix, les piètres décisions qui ont été prises. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant, en vous confiant, en espérant à l'Éternel que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité, c'est dans la confiance en Jésus-Christ que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu et j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que ce n'est pas le cas. À la fin, complètement à la fin. Merci. À partir du verset premier, malheur dit l'Éternel. Malheur aux enfants rebelles. Rebelles, c'est-à-dire qui écartent, qui mettent de côté la pensée, le projet de Dieu pour eux. Et qui en viennent à prendre des résolutions, à savoir ce qui est de mieux pour eux. Sans moi, sans me consulter, sans me demander, sans me soumettre ces choses-là. Et qui vont faire des alliances, des contrats qui vont se rapprocher de certains, mais sans ma volonté, pour accumuler finalement ratage de cible, sur ratage de cible, de passer à côté de la volonté de Dieu. Et qui descendent en Égypte, chez les Philistins ou autres, sans me consulter, pour se réfugier et trouver du repos. Tous seront confus. Et j'ai lu la bonne manière de faire, de revenir et de rester dans la confiance, dans l'espérance en l'Éternel. Et puis, merci Gérard, ce passage dans Jérémie chapitre 17. Avant, merci. Un passage un peu parallèle. Maudit soit l'homme qui se confie, qui se complaît, qui a confiance en son raisonnement, sa manière de voir les choses, sa manière d'analyser la situation, et qui met de côté les pensées, les projets de Dieu, les conseils de l'Éternel pour lui, et qui prend la chair lui-même, ou ses copains, ou ce que lui propose le monde, pour espérance, pour appui, et qui finalement va détourner son cœur de l'Éternel. Il va se retrouver misérable, comme dans le désert, ne voyant point arriver le bonheur, et le bonheur, ce n'est pas le bonheur avec la définition du monde. Le bonheur, c'est être au centre de la volonté de Dieu. Où que l'on soit, et quoi que ce soit, mais c'est être en paix, dans le repos, au centre des projets, des plans de Dieu pour toi. Béni soit l'homme, la femme, qui se confie, qui espère, qui s'attend, qui s'appuie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Et lui, elle, malgré la sécheresse, malgré le temps qui passe, malgré l'épreuve, malgré l'opposition, malgré les difficultés, malgré la vallée de l'ombre de la mort, lui, elle, est comme un arbre planté près d'un point d'eau qui va garder son feuillage, qui va donner son fruit, qui va être un instrument de bénédiction là où le Seigneur le ou la place pour impacter, pour influencer le monde. Amen, parce que c'est à ça que nous sommes appelés. C'est à ce que notre vie soit à la gloire de Dieu pour interpeller d'autres autour de nous. Amen. Alors je veux lancer cet appel. si vous êtes tenté d'aller chercher du secours, c'est une image évidemment, à Tsiklag ou en Égypte, un arrangement, une facilité, mais qui vous fait passer à côté de la volonté de Dieu, alors je veux prier avec vous. Ou tu te dis, ben, je suis à Tsiklag, ma vie elle est finalement un échec, misérable. Je réalise que je suis passé à côté, que j'ai fait de mauvais choix, que j'ai pris de mauvaises décisions et j'ai l'impression que je ne pourrais pas m'en sortir de ça. Le Seigneur te dit, tu peux tout retrouver par la repentance et en suivant la voie de ton Seigneur. Amen. On reprend, Jésus est mort pour moi. Et si c'est le cas, alors simplement, alors que ça ne nous concerne que le Seigneur et nous-mêmes, je veux simplement vous inviter à lever la main. Comme une manifestation que, ben, Seigneur, je me sens interpellé et j'ai besoin de toi. Simplement. Et puis je m'associerai à votre prière. Jésus, je t'aime. Je vous bouscule. Et ce dernier chant, comme l'expression renouvelée de notre amour pour le Seigneur. Parce que voilà, le centre, la base, le fondement de la vie chrétienne, c'est notre amour pour le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et puis tout le reste découle. Alors ce chant est une proclamation renouvelée de notre amour pour le Seigneur. . 537 pour la projection. Je vais vous lancer le défi de vous lever pour ceux qui le souhaitent. Je vous bouscule. Mon Jésus. Je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même ton sang m'a lavé. Bénir mes bien-aimés, bénir mes bien-aimés à tous égards, Seigneur, les bénir dans leur relation personnelle avec toi, dans ces temps d'intimité, ces temps de dévotion, de lecture de ta parole, Seigneur, que le stabilo divin mette en lumière la beauté de ta parole, de tes promesses. Tu parles à mes bien-aimés, tu fais du bien, Seigneur, dans ces temps de prière qu'ils prennent dans le secret avec toi. Que tu impactes leurs pensées par l'action de ton esprit, que tu les transformes, que tu les modèles à ton image, qu'ils soient transfigurés de ton caractère, de ta personne, de ton amour rayonnant de toi, Seigneur, pour que leur témoignage soit beau, soit à ta gloire. Je veux les bénir dans leurs responsabilités de couple, de vie de famille, de vie d'église, de vie sociale, de vie de voisinage, de vie professionnelle, Seigneur, afin qu'ils soient d'un témoignage tout à ta gloire, tout à ton honneur. Renouvelle les forces là où il y a des genoux chancelants. Rafraîchis, Seigneur, de ton esprit. Revigore, fais du bien, Seigneur. Garde-les fidèles, que la foi ne défaille pas, qu'il n'y ait pas de raccourci pour passer à côté et manquer ta cible, manquer ta volonté. Oh, alléluia. Amen. Amen.